Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Mon prochain invité est né à Donetsk, en Ukraine, habite Montréal depuis 2004. Il est pianiste et devant la guerre qui détruit son pays d'origine, ben, Seri Salov se sent complètement impuissant, désemparé, fâché, et il a choisi d'utiliser son art pour exprimer son soutien à l'Ukraine et dénoncer l'invasion par la Russie. Chaque samedi, il s'installe devant, avec son clavier, devant le consulat de la Russie à Montréal pour en jouer. Et c'est Seri qu'on a vu samedi dernier au Centre Bell. C'est lui, avant le match, qui jouait avec d'autres musiciens. Seri Salov, salut!
Bonjour monsieur, bonjour tout le monde.
D'abord, merci de venir à l'émission. D'abord, écoutez, comment allez-vous?
C'est une question qui coïncide avec l'application sur mon téléphone qui annonce l'alerte aérienne parce que je l'ai installée en complicité avec mes compatriotes ukrainiens. Donc je reçois pile au moment où vous me demandez comment je vais, je reçois l'alerte par téléphone, par l'application mobile de téléphone. Kiev est sous le raid aérien. Alors, ça va très, très mal. La question, ça c'est la réponse traditionnelle depuis 15 jours. Ça va très, très mal.
Vous avez des proches qui sont encore là-bas, Seri, hein?
J'ai des proches qui sont encore là-bas. Heureusement pour moi, ma famille immédiate est à Montréal et ma famille plus lointaine sont à Donetsk. Et bizarrement, Donetsk, qui était le théâtre principal des hostilités en 2014, et reste l'endroit des plus calmes pour l'instant parce que c'est l'Ukraine, le cœur d'Ukraine représenté par Kiev qui est embrasé surtout. Donc les gens de Donetsk sont d'un côté plus habitués à la guerre et puis la guerre s'est un peu figée dans le conflit gelé, mais toutes sortes d'histoires peuvent arriver et ça peut se répandre vers la région de Donetsk facilement.
Seri, avant que la Russie n'agresse l'Ukraine, là, on avait parlé à des gens là-bas, des correspondants, qui nous racontaient qu'il y avait une sorte je vais utiliser le mot légèreté en Ukraine. Les gens n'y croyaient pas à l'invasion. Est-ce que vous étiez de ceux-là?
Oui. Franchement, je faisais aussi partie de ces gens-là parce qu'on pensait tous que Poutine faisait juste une parade de force et que c'était qu'il n'aurait pas touché à son propre peuple parce que savez-vous ce qui est atroce, c'est que lui qui prétend de libérer l'Ukraine des nazis qui sont surtout dans l'ouest d'Ukraine, il s'est attaqué aux villes les plus russophones, les villes qu'il considérait vraiment l'apanage de l'Empire russe, de ce qu'il appelait le monde russe, le nom qu'il utilise, Russki Mir, ça veut dire d'un côté le monde russe et de l'autre côté la paix russe, parce que le mot Mir, c'est la paix et le monde ensemble. C'est l'équivalent un peu c'est devenu l'équivalent du Troisième Reich allemand. Le Reich de Poutine a été précédé par le Reich de l'Empire des Tsars et par la suite l'Empire de l'Union soviétique. Donc, même au niveau de numérique, c'est le Troisième Empire russe qui est maintenant en train d'anéantir hier il y avait une église orthodoxe du patriarchat de Moscou qui était bombardée en Ukraine. Donc slaves contre les slaves, c'est pire que nazisme pour moi parce qu'il n'y a même pas la ségrégation raciale, c'est juste vraiment s'ils considèrent nous autres les Ukrainiens comme son peuple frère ou même son propre partie intégrante de son propre peuple, alors c'est l'autonazisme, l'autodestruction. Et ça va finir évidemment par la destruction et de l'État russe et de la nation russe.
Seri, racontez aux gens qui nous écoutent ce que vous faites chaque samedi.
chaque samedi depuis trois semaines, je fais ce qui a tout à l'heure de l'activisme politique, sauf que je déteste le mot électivisme et politique parce que mes activités sont infinitésimales et la politique n'y est pour rien. Je suis là pour rencontrer du monde, des gens qui sont russes, russophones, ukrainiens, de toutes les races, de toutes les nationalités. Je suis là pour communier avec ces gens-là, pas pour protester devant le consulat. Les consuls sont partis, les diplomates sont partis. L'immeuble est vide. On est là juste pour se serrer la main, pour se regarder, pour dire des fois tacitement qu'on n'a pas de mots pour ça. Savez-vous, c'est un peu comme après la sortie du film The Schindler's List, la liste de Schindler en Allemagne. Mm-hmm. Les gens sortaient des cinémas, on m'a raconté, les Allemands eux-mêmes qui m'ont raconté, les gens sortaient du cinéma et spontanément, sans être incités, se sont tenus les mains, ont formé des cercles géants dans les villes et ont pleuré. Les gens adultes, les gens qui ne se connaissaient même pas. Ils pleuraient des événements qui se sont déroulés une cinquantaine d'années auparavant. Et là, on a le Holocauste. J'ai pas peur de prononcer ce mot grec qui signifie vraiment l'anéantissement total. L'Holocauste du peuple ukrainien par un peuple russe. Et ça se passe en direct. Ça se passe en direct. Comment est-ce qu'on peut rester devant les écrans et commenter ça sur Facebook? Alors les gens qui veulent protester, protester c'est même pas un mot, qui veulent se rendre à l'endroit qui est officiellement le territoire de ce qui se nomme encore la Fédération russe, rue du Musée, l'endroit le plus honteux à Montréal, qui devrait vraiment, vraiment changer de nom en rue d'Ukraine. Et voilà, les gens qui sont peu nombreux.
Je vous interromps, Seri, vous faites référence au fait qu'il y a beaucoup de villes dans le monde qui ont changé le nom des rues où on trouve les consulats et les ambassades russes.
Oui, Montréal devrait donner une puissante gifle à ce régime et de l'autre côté inscrire sa propre histoire parce que l'histoire de Montréal s'écrit aussi aujourd'hui en Ukraine et la communauté et russe et ukrainienne de Montréal est largement contre ces atrocités. Et donc ces traces d'histoire doivent absolument être éternisées par une rébaptisation nécessaire de ce tronçon supérieur de la rue de Musée en allée d'Ukraine ou place d'Ukraine.
Seri Salov, je rappelle que vous êtes pianiste et je veux vous entendre, Seri, sur il y a plusieurs artistes russes qui sont boycottés un peu partout dans le monde, qui perdent des emplois, des contrats, des chefs d'orchestre, par exemple. Et plus près de nous, à Montréal, il y a l'Orchestre symphonique de Montréal qui a décidé d'annuler une prestation d'Alexander Malofiev, c'est un jeune pianiste russe. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette forme de représailles?
C'est vraiment une conversation qui va dépasser le temps alloué à cette entrevue. Mais je vous assure que le garçon en question était, et lui-même et sa famille en Russie, il était un peu les otages de ce régime. La chose la plus logique serait pour ce garçon de retirer de son propre gré, parce que on ne le laisserait pas même toucher au piano. Il y aurait vraiment des cris de rage dans la salle. Je suis convaincu. Le stationnement de la salle symphonique, de la maison symphonique, serait bloqué par les activistes, par les vrais activistes, quoi, ukrainiens et non seulement ukrainiens. Il ne s'est pas retiré de son propre gré. Par la simple et unique raison, c'est que il est comme le soldat, comme les soldats. Les soldats qui fuient les champs de bataille et qui retournent en Russie sont soit anéantis, encore en Ukraine, par les Russes, par les bataillons qui sont derrière, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale d'ailleurs. C'était sur l'ordre de Staline.
Je vais vous interrompre. Pour vous, un pianiste russe comme M. Malofiev, là, qui n'est pas un combattant, pour vous, ça a la même signification symbolique qu'un soldat?
Dans le procédé, comme j'ai expliqué, il devrait retirer, pour éviter toutes sortes de polémiques, il devrait retirer de son propre gré. Mais il serait accueilli comme un traître en en Russie. C'est ça, c'est ici que entre l'analogie avec des soldats. Et de l'autre côté, il est très très fortement lié à Poutine par toute une hiérarchie de pouvoir Poutine est comme Hitler. il est un grand patron des arts et de la musique spécifiquement. Bon, Poutine, il a établi une hiérarchie de pouvoir qui permet aux jeunes talents de s'épanouir, ce qui est vraiment, vraiment génial. Mais de l'autre côté, ces jeunes talents, comme Malofeyev, sont étroitement imbriqués avec Poutine. Et voilà, il n'avait aucune chance. Il ne pouvait pas se retirer de ce propre gré. Maintenant, on lui a montré la porte, donc il peut retirer à Moscou sans risquer des représailles. Et comme j'ai dit à vos collègues, ses talents seront fortement sollicités en Russie pour guérir toutes ces âmes perdues qui sont dans le mutisme. Tous ces gens qui boivent du thé et dont les enfants jouent pour Élise. Moi, je me suis demandé, les concerts de la musique classique en Russie, qui sont nombreux, 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 comment est-ce que les gens peuvent, 2000 gens peuvent aller dans une salle de concert, écouter Beethoven, écouter Tchaïkovski aujourd'hui? Je les imagine en sanglots. Mais non, rien de tel. Les gens qui sont sensibles à la musique classique, ils vont comme si rien n'était. Oui, les forces russes ont une opération spéciale à faucher les nazis ukrainiens. C'est ce que chaque amateur de la musique classique ou les gens qui fréquentent les théâtres, les intellectuels sont hypnotisés par ce cauchemar propagandiste.
Merci beaucoup, Sari. On va se laisser sur votre interprétation de Chopin, balade numéro 4. Sari Salov, je rappelle que vous êtes pianiste. On peut vous entendre à partir de cette semaine, 30 minutes par jour, sous la marquise de l'hôtel Ritz. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
Merci, Monsieur Lagasse.
Au revoir, Sari.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
Aujourd'hui, tous les députés canadiens, dont Justin Trudeau, ont été interdits de séjour en Russie. Les Russes qui ont annoncé aussi que le président Biden, tout comme l'ex-candidate à la présidence, Mme Clinton, était persona non grata. Et écoutez, il y a pas juste des députés au Canada qui ont été exclus. Il y a aussi une dame du nom de Alexandra Chigis, je ne sais pas si je le prononce bien, mais elle est présidente du Congrès canadien des Ukrainiens. Et là, le Congrès canadien des Ukrainiens a envoyé un communiqué de presse pour prendre acte du fait que sa présidente n'avait pas le droit d'aller en Russie. Et le communiqué de presse disait « Voici la réaction de notre présidente ». Et c'est un mot en trois lettres et le mot c'était « LOL ». Je ne sais pas si les Russes vont comprendre. Je ne sais pas si LOL, ça se dit en russe, mais ça veut dire ce que ça veut dire. OK, dans un registre plus sérieux, il y a le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, qui a fait un discours aujourd'hui par vidéoconférence aux parlementaires canadiens. Il a dit « Nous voulons vivre, nous voulons gagner, être victorieux. Nous souhaitons vaincre pour vivre ». C'est un discours très émouvant. Et il a pris des exemples canadiens pour... interpeller les députés canadiens. Il a dit, j'aimerais que vous compreniez les sentiments et les émotions que vivent les Ukrainiens. Imaginez l'aéroport d'Ottawa bombardé. Imaginez la ville de Vancouver assiégée, comme Mariupol. Imaginez la tour du CN bombardée. Et imaginez des enfants qui meurent à Toronto. Imaginez les explosions massives, les infrastructures, les écoles, les garderies, un incendie dans une centrale nucléaire. Et il s'est adressé, M. Zelensky, directement au premier ministre du Canada. Cher Justin, pouvez-vous imaginer recevoir tous les jours des mémos sur le nombre de victimes, y compris le nombre de femmes et d'enfants? On en parle avec Frédéric Mérand, qui est directeur du CERIUM, le Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Frédéric, salut!
Bonjour!
Je vais citer le président ukrainien. Il a dit « Nous demandons de créer une zone d'exclusion aérienne. Il faut arrêter les bombardements. Combien de missiles et d'attaques devront avoir lieu avant de prendre les mesures? » On sait que l'Ukraine demande à l'OTAN un couloir, une zone d'exclusion aérienne. C'est quoi ça?
Une zone d'exclusion aérienne, c'est essentiellement d'interdire tout l'espace aérien de l'Ukraine aux avions de chasse russes. Le problème, c'est que pour le faire concrètement, face à une force aérienne qui est très importante, celle de la Russie, la deuxième la plus importante dans le monde, ça veut dire tirer sur des avions de chasse russes. C'est la raison pour laquelle les pays de l'OTAN, comme le Canada et les États-Unis, refusent cette demande de l'Ukraine parce qu'ils considèrent que ce serait trop dangereux d'entrer dans une confrontation directe avec la Russie.
OK, on va revenir au risque, mais sur le principe d'une zone d'exclusion aérienne, est-ce qu'il y a des précédents récents?
Oui, il y a des précédents en Libye, en Syrie, dans le nord de l'Irak. Il y en a eu également dans les Balkans. Mais tous ces précédents avaient quelque chose en commun. C'était l'armée américaine contre une non-force aérienne. C'est-à-dire que c'était des pays dont les forces aériennes étaient presque inexistantes. Donc, c'était beaucoup plus facile de mettre en œuvre une zone d'exclusion aérienne que ce serait le cas en Ukraine.
OK. Je me souviens qu'on l'a fait dans les Balkans. Je pense que c'était au Kosovo. Et ce que ça assurait, c'est quoi? C'est que les civils se faisaient pas tirer dessus des airs.
Exactement. Ce qu'on voit en ce moment dans la stratégie russe, c'est qu'ils sont en train de pilonner, de bombarder de nombreuses villes qu'ils ne sont pas capables de prendre par des moyens terrestres. Donc, c'est un massacre, hein. Il faut pas se le cacher. Donc, la demande de Zelensky est tout à fait compréhensible. Lui se dit, si les Américains empêchaient les avions de chasse russes de bombarder les villes ukrainiennes, ce serait évidemment très important pour sa population. Mais le calcul de risque, et peut-être qu'on y viendra, n'est pas du tout le même pour les Occidentaux et pour les Américains.
OK, parlons-en du calcul de risque. De tout ce que je lis là-dessus, là, incite à la prudence. C'est-à-dire que, disons que les pays de l'OTAN, dont le Canada, décidaient de créer une zone d'exclusion aérienne. Il y a des chasseurs canadiens, des chasseurs français, des chasseurs américains là, qui patrouilleraient le ciel de l'Ukraine et qui, dans le fond, engagerait un combat aérien avec des avions russes. Ce qu'on dit, c'est que si l'un ou l'autre des camps avait un de ces avions abattu, quoi, ça pourrait dégénérer en guerre nucléaire. Expliquez aux gens qui nous écoutent, Frédéric Mérand, comment on partirait d'un avion de chasse abattu à une guerre nucléaire?
Bon, d'abord, il faut dire que la différence entre une confrontation directe, que ce soit aérienne ou sur la terre, entre la Russie et les États-Unis et ce qu'on fait en ce moment, c'est la différence entre la guerre et soutenir un pays en guerre. C'est pas la même chose. Actuellement, ce qu'on fait, le Canada et les autres pays, c'est de soutenir l'Ukraine qui elle-même est en guerre avec la Russie parce qu'elle a été envahie par la Russie. Mais à partir du moment où nous devenons des co-belligérants, c'est-à-dire où nous appuyons les Ukrainiens dans leur conflit contre la Russie, là, on est nous-mêmes en guerre avec la Russie. À partir du moment où on est en guerre avec la Russie, il est possible que cette guerre demeure conventionnelle, c'est-à-dire sans l'usage d'armes nucléaires. Mais Vladimir Poutine lui-même a laissé planer l'usage de l'arme nucléaire. La Russie a quelques 6000 ogives nucléaires. C'est la deuxième puissance nucléaire du monde. Et donc, elle aurait la capacité de détruire, par exemple, toute l'Europe.
Oui, mais écoutez, il y a une part de bluff là-dedans quand même. Je veux dire, Vladimir Poutine veut pas... J'imagine, là, ni moi ni vous sommes dans sa tête, là. Mais est-ce que Poutine va déclencher une guerre nucléaire parce qu'on a battu un ou deux de ses chasseurs?
Probablement pas. Et d'ailleurs, il y a eu depuis 1945 un tabou nucléaire, c'est-à-dire que ni l'Union soviétique à l'époque, ni les États-Unis n'ont jamais utilisé l'arme nucléaire dans de telles circonstances. Mais la question du bluff a beaucoup changé depuis l'invasion de l'Ukraine, parce que tout le monde pensait que Vladimir Poutine a bluffé parce qu'il menaçait d'envahir l'Ukraine. Or, il l'a fait quand même. Donc, ça nous amène à réfléchir un peu sur ses propres calculs stratégiques. L'autre enjeu, c'est que utiliser l'arme nucléaire, ça ne serait pas nécessairement au niveau stratégique, c'est-à-dire en visant un autre pays comme les États-Unis ou le Canada. Ça peut se faire de manière tactique, c'est-à-dire sur un théâtre d'opération où les dommages sont moins grands, mais ils sont quand même aussi importants qu'une grosse explosion nucléaire de type Nagasaki ou Hiroshima. Donc, c'est pas nécessairement la planète qui est oblitérée, c'est pas l'hiver nucléaire, mais ça peut quand même être une situation d'escalade extrêmement dangereuse.
OK. Qu'est-ce que l'OTAN, présentement, les pays de ce qu'on appelle l'Ouest, ne fait pas que l'OTAN pourrait faire pour appuyer encore, disons, de façon plus importante les Ukrainiens?
À l'heure actuelle, la stratégie des alliés est vraiment axée sur les sanctions économiques et ce ne sont pas des petites sanctions économiques. La prochaine étape, avant même de penser en termes de guerre, c'est des sanctions sur les hydrocarbures, ce qui ferait en sorte que Poutine ne serait plus capable de financer son armée, on le sait, ce serait de bloquer les exportations d'hydrocarbures de la Russie. Donc ça, c'est vraiment, disons, l'étape la plus importante. Après, l'OTAN, en tant qu'organisation, bien déjà, elle fait beaucoup, c'est-à-dire qu'elle contribue à la formation de l'armée ukrainienne. Il y a des fournitures d'armes pour aider l'armée ukrainienne. La logique, c'est toujours la même, c'est que on a le droit, en droit international, de venir en soutien à un pays qui se défend, mais l'OTAN ne va pas se placer dans une position où elle est co-belligérante, c'est-à-dire partie au conflit. J'ajoute, si j'ai une seconde, qu'évidemment, Poutine ne l'interprète pas de cette manière. Lui dit qu'à partir du moment où, par exemple, nous fournirions, disons, des avions de chasse, même si nous ne les pilotons pas nous-mêmes, il considérerait que c'est un acte de guerre et donc il se réserve le droit de bombarder, par exemple, une base militaire aérienne d'où viendraient ces avions.
Frédéric Mérand, je vous imagine plongé dans toutes sortes de documentations parce que on est en train de vivre une sorte de cours non seulement de relations internationales, mais d'histoire, puis aussi d'efficacité militaire. Quel est le consensus des experts militaires sur la performance de l'armée russe?
Honnêtement, il n'y a pas de consensus, c'est ça la meilleure réponse que je puisse vous donner, parce que tout le monde a été surpris de la lenteur à laquelle l'armée russe a progressé en Ukraine, mais on ne sait pas si cette lenteur est attribuable à de véritables difficultés logistiques, d'organisation, un manque de préparation, ou si c'est une volonté de retenue relative de la part de la Russie. Donc ça, c'est disons ce qui nous empêche de porter un jugement définitif, mais ce qui est certain, c'est que la Russie pensait pouvoir conquérir l'Ukraine de manière beaucoup plus rapide. La résistance des Ukrainiens a fait en sorte que c'est plus compliqué. Ça change complètement l'équation géopolitique parce que pour soutenir un tel effort pendant très longtemps, et là on ne parle pas encore de l'occupation de l'Ukraine, qui ne serait pas non plus une promenade de santé, ça demande beaucoup de volonté, mais ça demande beaucoup d'argent et les Russes ont de moins en moins d'argent parce qu'ils sont l'objet, justement, de sanctions sans précédent dans l'histoire contemporaine.
Mais je voyais des anciens militaires américains, là, des gens de haut rang, qui s'étonnaient de voir à quel point l'armée russe n'est pas aussi efficace qu'on pensait qu'elle aurait pu l'être. Je veux dire, il n'y a peut-être pas de consensus, mais il n'y a pas grand monde qui est impressionné.
Mais c'est tout le problème de la Russie, c'est que c'est un pays qui, pour Poutine, est encore une grande puissance mondiale, qui a en fait encore l'arme nucléaire, donc ça ne faut pas le négliger, mais qui est un pays qui s'est énormément appauvri dans les 30 dernières années, qui n'a plus l'influence et la puissance qu'elle avait autrefois. Et ça, on le voit bien dans le comportement des forces russes. On dit aussi que beaucoup de ces soldats n'avaient pas été préparés à un scénario d'invasion qui avait été bien caché. Ça, pour moi, c'est difficile de me prononcer là-dessus. Mais je dirais que la Russie n'éprouve pas des difficultés beaucoup plus grandes que les États-Unis lorsqu'ils ont conquis l'Irak ou l'Afghanistan, lorsqu'ils ont essayé d'occuper l'Afghanistan. Or, les États-Unis avaient un rapport de domination sur ces deux pays, l'Irak et l'Afghanistan, beaucoup plus important que la Russie par rapport à l'Ukraine. Et on voit ce que ça a donné. Ça a été très, très compliqué.
OK. En terminant, les sanctions, il y a beaucoup de gens qui pensaient que les sanctions, ça n'aurait pas d'effet. Est-ce qu'il est surprenant de constater que, d'abord, il y a une grande cohésion dans les pays de l'Occident et ensuite, ça semble frapper quand même assez fort là, le quotidien des Russes?
Oui, je pense qu'il faut le mettre au crédit de Joe Biden et de son équipe en grande partie. Ils ont réussi non seulement à imaginer un régime de sanctions qui a pris les Russes par surprise parce qu'il était beaucoup plus ambitieux que ce qu'on faisait d'habitude, mais surtout qui a rallié une grande partie de ce que j'appellerais l'Occident élargi, c'est-à-dire pas seulement les pays occidentaux, mais le Japon, par exemple, aussi, ou la Corée du Sud. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, malgré évidemment la catastrophe humanitaire et politique en Ukraine. La bonne nouvelle, c'est que l'Occident est resté uni et résolu aux côtés de l'Ukraine, même si une intervention militaire est exclue. Pas parce que personne ne la jugerait justifiée, mais parce que tout le monde a peur de faire davantage de tort que de bien.
Merci beaucoup, Frédéric Mérand. Toujours intéressant.
Ça m'a fait plaisir. Bon après-midi.
À la prochaine. Monsieur Mérand est directeur du Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, le CERIA. y a des milliers de parents qui n'ont pas de place en CPE ou d'autres types de garderies. Ça a un effet, évidemment, sur les enfants, mais ça a un effet sur les parents qui doivent, disons, restreindre leur retour au travail. Et évidemment, la vie étant ce qu'elle est, ben c'est souvent les mamans qui restent à la maison pour s'occuper des enfants. Et ça fait un an que Myriam Lapointe-Gagnon se bat pour tenter de trouver des solutions. Avec d'autres mères, on a fondé l'organisme Ma Place au Travail il y a exactement un an. On va faire le point avec elle. Myriam Lapointe-Gagnon, salut!
Salut, Patrick!
Donc, de quoi s'est né cet organisme-là? Ça a été quoi le déclic?
Ça a été une crise d'angoisse, le déclic. Moi, mon bébé, il avait 4 mois, puis on me disait, quand j'appelais des milieux familiaux, là, parce que le CPE, c'était oublié ça, là, les milieux familiaux me disaient que j'aurais pas de place avant que mon enfant il y a 2 ans et demi, à peu près. Et moi, ben dans le fond, si je retournais pas, là, 6 mois plus tard, là, il me restait comme 6 mois, si je retournais pas à mon internat en psychologie, là, je compromettais mon doctorat, mes études. Ça faisait déjà plusieurs années d'université que je m'endettais, donc... C'était très, très stressant comme situation. Donc, c'est comme j'ai lancé un hashtag avec beaucoup de désespoir puis de colère aussi, en espérant qu'il y ait des parents qui écoutent, qui entendent puis qui se joignent à moi. Et le soir même, on était déjà plusieurs milliers. Je m'attendais pas à ça. Puis je pensais que c'était vraiment au Bas-Saint-Laurent. Parce que moi, j'habite au Bas-Saint-Laurent. Je pensais que c'était comme parce que j'étais en région et tout. Mais c'est vraiment à la grandeur du Québec. Puis ça, je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais pas du tout.
Myriam, qu'est-ce qui vous a surprise dans les témoignages que vous avez reçus depuis un an, ceux de mères surtout, là, qui n'ont pas de place en garderie?
Je suis surprise à tous les jours des situations complètement de désespoir et de solutions là qui s'inventent, qui existent. Tu sais, j'ai entendu là, l'histoire qui m'a vraiment le plus bouleversée là, c'est une maman immigrante qui a dû renvoyer son bébé de 4 mois dans son pays d'origine pour que les grands-parents puissent s'en occuper parce qu'elle était venue avec un permis de travail puis que si elle travaillait pas, son immigration était compromise. Donc, elle s'est séparée de son bébé, tu sais, pour pouvoir travailler par manque de place en garderie. Tu sais, c'est des parents, des papas aussi, là, qui prennent un deuxième emploi, qui voient jamais leurs enfants. Des mamans qui se mettent sur le bien-être social, ça, on en voit de plus en plus. Des mamans qui retournent aux études sans d'été, parce qu'avec un bébé au moins, avec les études à distance, ben on s'endette à moindre coût. Mais c'est des femmes qui sont déjà éduquées, là, qui ont déjà des emplois. Fait que c'est vraiment, là... toutes sortes de situations. Puis je suis toujours surprise un an plus tard. Là, j'ai jamais fini d'en entendre là, des histoires.
Et on entend votre bébé aussi en bruit de fond.
Ben oui, c'est ma situation.
Ben oui, c'est quoi son nom?
Parce que c'est Jules, mon
OK, bébé parfait. Faites-vous-en pas s'il fait du bruit. On est pour ça, la conciliation travail-entrevue. OK, Myriam, Ma Place au Travail est un organisme actif depuis un an. Est-ce que vous... pensez-vous que vous avez fait... avancer cette cause-là? Parce qu'il me semble que vous avez beaucoup l'oreille du politique.
On a l'oreille des oppositions, je vous dirais, vraiment beaucoup. Là, on commence à avoir un peu d'ouverture du côté de la CAQ. Là. On a des rencontres. Demain, on rencontre la ministre Isabelle Charest de la Condition féminine. On va avoir une rencontre avec les proches de M. Legault prochainement. Par contre, là, moi, ce qui m'inquiète, ce qui me fait vraiment beaucoup peur, c'est que j'ai relu le premier témoignage de Ma Place au Travail, qui est mon témoignage à moi, la première fois qu'on a utilisé le hashtag. Puis, ce qui fait peur, c'est que j'aurais pu écrire le même texte aujourd'hui. Exactement la même chose. C'est toujours autant d'actualité. Puis même avec l'inflation, je vous dirais que ça empire parce que le coût de la vie augmente. Donc, vivre avec un seul salaire, là, ça devient de plus en plus compliqué pour les familles.
OK. On va écouter un échange aujourd'hui. Christine Labrie, qui est députée de Québec solidaire, là, qui a interpellé le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, à l'Assemblée nationale pour parler justement de l'accès aux garderies. On va écouter l'échange.
La CAQ sait très bien que les places qu'ils ont annoncées pour dans 2-3 ans, si tout va bien, répondent pas du tout aux besoins des parents qui ont déjà leurs enfants dans les bras. La CAQ sait aussi très bien que pour les parents qui n'ont pas de place en ce moment, il y a des conséquences financières importantes et à long terme. Moi, j'ai pas entendu le contraire ici. Mais savez-vous quoi? Moi, ça me surprend pas qu'ils abandonnent ces femmes-là. Ce qui me surprend, c'est qu'ils continuent de dire qu'ils sont féministes.
Le leader du gouvernement,
Mère Teresa.
Stop. OK. Ça, c'est y a, là, je pense, je me rappelle pas là, si c'est M. Jolin Barrette qui se lève ou M. Lacombe, là. Mais c'est le premier ministre.
Là,
OK, donc je me trompais pas, là, c'est M. Jolin Barrette qui se levait pour répondre pour le gouvernement. Mais la personne qui dit Mère Teresa, c'est le premier ministre François Legault. Comment vous interprétez ça?
un coup de poignard dans le cœur. Sincèrement, là. C'est comme d'utiliser le symbole d'une femme tellement bonne, tellement généreuse, puis de retourner ça contre une députée qui prend la parole pour des mères qui sont dans les gradins. Là, nous, on était là, là. On a pleuré, Patrick. On a pleuré de rage puis de peine. Puis il y a eu 3 motions après qui ont été déposées. Les 3 ont été rejetées du revers de la main. Puis moi, j'étais avec une femme à mes côtés qui était immigrante, qui vient d'arriver, ça fait 3 ou 4 mois qu'elle est ici. Elle vient dans un pays où la démocratie là, est pas mal moins forte qu'ici, mettons, je dirais. Mm. Puis on est sortis de là, puis elle a dit, « Mais Myriam, ils n'ont même pas répondu aux questions. Ils n'ont même pas donné des réponses, Myriam. » Puis non seulement ça, ils ont insulté une femme qui parlait en notre nom. Ça, c'est grave. C'est le premier ministre. Puis moi, selon moi, c'est un geste qui demande des excuses, qui demande réparation. C'est ce qu'on enseigne aux enfants à l'école, de ne pas s'intimider, de s'écouter, de se laisser parler, de ne pas s'insulter. Moi, aujourd'hui, j'ai été déçue de notre démocratie, bien honnêtement.
Vous étiez là, dans les tribunes de l'Assemblée nationale.
Ouais, même Jules, il a échappé sa suce sur le bureau de ministre Girard, ministre des Finances. Je vous jure, c'était pas planifié.
Non, mais écoutez, tu sais, je comprends que dans le feu de l'action, les parlementaires puissent avoir des mots comme ça, mais je vous le dis, dans ce cas-là, j'essaie d'y trouver des circonstances atténuantes au PM pour avoir traité de Mère Teresa une députée qui l'interpelle sur la création de places en garderie. J'en trouve pas.
Ben, j'en trouve pas non plus. C'est un mépris. Dans le point de presse là, qu'on a fait après, ben, Christine Labrie l'a dit, là, c'est un mépris. Puis c'est d'insulter une femme à partir d'une icône de la bonté humaine. Là.
Mère Teresa.
Donc, c'est mépriser la bonté humaine. Donc, tu sais, puis s'il a dit Mère Teresa, là, c'est parce qu'il y a de la détresse. Hein. Mère Teresa, c'est une femme qui s'attaquait à des causes où il y avait de la détresse pour les enfants, pour les femmes. Tu sais, moi, ce que ça me dit, c'est qu'il sait qu'il y a de la détresse. Puis qu'il l'annule, puis qu'il la tasse, puis qu'il la muselle, cette détresse-là, puis qu'il l'insulte aussi devant les parlementaires. Christine Labrie, là, il y a un moment où elle a même pas pu parler parce que les députés caquistes la huaient. C'est de l'intimidation. On est dans un lieu de démocratie. C'est beau, l'Assemblée nationale. C'est d'une beauté. Là, moi, je n'étais jamais rentrée dans le Salon Bleu. C'est d'une beauté, c'est d'une dignité. Mais les échanges qui se passent, c'est vraiment problématique. Puis c'est pas pour rien que les gens ne la suivent pas à la politique. C'est parce qu'il n'est pas digne de la population. Puis, tu sais, quand ils ont lu nos 3 motions là, puis qui ont été passées du revers de la main, c'est une chose de les passer du revers de la main, mais nous, on était en haut d'eux, les députés caquistes. Ils étaient tous sur leur téléphone à texter, à faire autre chose. Ils n'ont même pas entendu écouter ce qui passait du revers de la main. Moi, je pense que s'ils avaient non seulement écouté, mais entendu, qui nous avait vus? Moi, j'ai des regards qui m'ont fui aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
Merci, Myriam.
Merci.
Salut,
merci.
Bonne journée. Myriam Lapointe-Gagnon, porte-parole de Ma Place au Travail. Ça fait un an que Mme Lapointe-Gagnon et d'autres femmes s'investissent dans cet organisme-là pour quelque chose de bien, bien simple. Disent au gouvernement, écoutez, si quand on manque de place en garderie, qu'importe le type de place, là, ben, ce sont souvent les femmes qui écopent. Ce sont souvent les femmes qui restent à la maison, qui mettent leur carrière sur pause, etc., en attendant de trouver une place en garderie pour pouvoir retourner travailler. Et je sais que Ma Place au Travail gosse considérablement le gouvernement. C'est les échos que j'ai eus. Après ça, est-ce que Ma Place au Travail a toujours raison? Probablement pas. Est-ce que ils savent, disons, attirer la lumière des médias? Oui, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ce qui veut pas dire que la cause est pas juste. Je pense que la cause est juste. J'ai déjà passé une heure à lire les témoignages. Là, c'est assez, ça crève le cœur. Et ce que je veux dire, c'est le premier ministre du Québec, M. Legault, est dans un gouvernement majoritaire. Pas juste dans un gouvernement majoritaire, mais dans un gouvernement très, très populaire. C'est-à-dire, c'est à peu près... On peut présumer de rien, là. Il serait très, très surprenant que la CAQ ne gagne pas la prochaine élection. Tout peut arriver, je suis d'accord avec vous. Majoritaire, très populaire, le premier ministre du Québec trouve quand même le moyen d'être cheap, mais cheap au point de dire à quelqu'un de l'opposition, Christine Labrie, Mère Teresa. Pas parce qu'il a été attaqué personnellement. Pas parce qu'un ou une de ses proches a été attaqué personnellement. À ce moment-là, je comprends que les gants tombent et que tu te défoules. sur un sujet d'intérêt public, la création de places en garderie, dans un jeu parlementaire qui est musclé, mais ça fait partie de la game, le premier ministre a été extrêmement cheap aujourd'hui.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
Il y a des voix qui s'élèvent dans la classe politique au Québec pour demander l'annulation de plus de 46 000 constats d'infraction qui ont été émis pour non-respect des mesures sanitaires entre septembre 2020 et octobre 2021. C'est le cas d'Éric Duhaime et c'est le cas aussi de Manon Massé, députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Elle est au bout du fil. Madame Massé, bonsoir.
Oui, bonsoir, M. Lagacé.
Mais Madame Massé, expliquez aux gens qui nous écoutent, qui ont respecté les règles, pourquoi ceux qui ont reçu des tickets devraient les voir annulées.
Oui, non, mais attention, dans votre introduction, vous disiez que M. Duhaime et moi, on voulait voir annuler l'étiquette. On va s'entendre sur quelque chose. C'est que nous, quand on prend conscience que 48 % des tickets des contraventions ont été données pour non-respect du couvre-feu. Et quand on sait que depuis le jour 1 des mesures sanitaires, ou à tout le moins de l'annonce des couvre-feu, j'ai dit à M. Legault que c'était une mesure injuste. Hein, on se souvient toute la phase autour des itinérants, là.
Mm-hmm. Qui a été validée par un juge.
Ben, c'est-à-dire que, bon Dieu divine, c'est écrit dans le ciel, M. Mm-hmm. Lagacé, les itinérants, c'est leur milieu de vie. Hein, tu peux pas lui dire rentrer chez vous, là. En tout cas, bref, tout ça pour dire que il y a des mesures qui étaient effectivement contraignantes pour les plus vulnérables. On l'a toujours dénoncé, mais ceci étant dit, c'est là qu'on n'est pas du tout d'accord avec M. Duhaime, c'est que pour nous, Québec solidaire, on a toujours appelé à respecter les mesures sanitaires, on a toujours invité la population à être respectueuse des mesures sanitaires, mais on a toujours dit au gouvernement que certaines de ces mesures-là étaient injustes pour les plus vulnérables de notre société. Et c'est là où, moi, ce matin, j'ai dit, ben, vous un malaise avec, en sachant qu'il y a 48 % des infractions qui ont été émises pour concernant le couvre-feu. J'ai un malaise par rapport à ça. J'ai d'ouverture pour qu'on regarde parce que je pense qu'il faut continuer à prendre soin des plus vulnérables. Et c'est à ça que j'ai dit mon ouverture.
Mais Mme Massé, expliquez aux gens qui nous écoutent, là, comment vous feriez ça? On fait ça à la pièce, on prend chaque constat, puis on l'analyse, puis on décide, cette personne-là était vulnérable, on l'annule, ou comment on fait ça?
Monsieur Lagacé, tu sais, moi, là, je veux qu'on soit clair, là. Si M. Duhaime, lui, veut exonérer des gens qui font des gros parties, ça le regarde. Moi, quand je vous dis que c'est que les gens les plus vulnérables que le gouvernement doit se préoccuper, j'ai pas toute la technique, mais ce que je vous dis, ce que je répète à M. Legault depuis 2 ans, c'est qu'il y a des mesures qui ont des impacts. Par exemple, sur les gens qui ont des problèmes de santé mentale ou tout simplement qui n'ont pas compris les mesures à cause de la langue ou tout simplement qui avaient besoin d'aller prendre une marche parce qu'ils vivent à 6 dans un 4,5 puis qu'il était mieux d'aller prendre l'air avant de faire des folies. Moi, je fais juste dire qu'il faut que le gouvernement soit sensible à ça et c'est pas l'attitude de M. Duhaime que je suis d'accord du tout avec.
OK, mais oublions M. Duhaime, c'est juste drôle de vous voir dans la même position que lui. OK, mais je comprends. Mais dites-moi, mais comment on le fait? Parce que c'est pas le moyen de faire ça, qu'on soit d'accord ou pas, là, je veux que vous l'expliquiez aux gens parce que, je veux dire, il y a quand même eu 46 000 constats. On va pas y passer un par un pour voir qui le méritait et qui le méritait pas en fonction de son niveau de vulnérabilité. Là. Qu'est-ce que vous suggérez pour trier les bons tickets des mauvais tickets?
Alors, mais pour moi, d'entrée de jeu, toute la question du couvre-feu pose un problème.
OK. Alors, donc ça, c'est 50% des tickets.
C'est 50%. Et après ça, ce que je dis au gouvernement, c'est puisque vous savez que cette mesure-là avait, d'ailleurs, ils l'ont décrétée contre l'avis de la santé publique du Québec, là, comprenez-vous, de Montréal, ça, la deuxième fois, puisque vous avez fait ces choix-là, puisque ça a des impacts, alors que ce soit, par exemple, d'appeler toutes ces, tu sais, je veux dire, contester un ticket, là, c'est pas quelque chose qui se fait jamais dans la vie, là. Ça se fait régulièrement. Mais là, cette fois-là, puisque c'est le gouvernement qui a enclenché ça, pourrait inviter donc à une révision de ces contraventions-là, en s'assurant, je ne sais pas, est-ce que c'est la question du revenu, est-ce que c'est la question du nombre de la santé, comment au niveau de la santé mentale, comment les personnes se portent, comment on est capable de justice envers ces personnes-là. Il me semble que c'est la moindre des choses.
Ok, je veux pas sortir mon Ronald Reagan interne là, mais trouvez pas que ça envoie un drôle de message, parce que si on a à donner d'autres tickets dans l'avenir pour une situation X qui nous concernerait tous, il y a des gens qui vont se dire, ben écoute, je respecterai pas les règles. De toute façon, le gouvernement va les annuler comme en 2022.
Alors moi, ce que je vous dis, c'est que je suis prête à faire cette discussion-là. Parce que depuis des mois, je dis à M. Legault que ces mesures-là ont des impacts injustes sur certaines personnes. Et il a décidé d'y aller quand même. Tu sais, je veux dire, moi, ça, je dis pas qu'il faut remettre en question tout étiquette, là. Je dis juste que ce qu'on lui dit depuis des mois, ben, il faudrait bien qu'il répare son erreur. Et c'est dans ce sens-là que, pour moi, je suis ouverte à regarder ça, là.
OK, dernier point là-dessus. Moi, j'ai vu des reportages où il y a des gens qui allaient contester leur contravention. Puis il y a des juges, qui écoutaient les doléances, les explications, puis qui disaient, OK, parfait, vous aviez des circonstances atténuantes, ben je vais annuler le ticket. Est-ce que vous faites confiance au juge pour avoir du jugement là-dessus?
Ben les règles étaient claires. Ce qu'il faut maintenant, si le gouvernement est prêt à reconnaître qu'il a commis, entre autres, un certain nombre d'erreurs, puis qu'il n'a pas été attentif à des indications qu'on lui a donné en matière des personnes vulnérables, ben je pense qu'on est capable de, il est capable de donner des paramètres. Et moi, je le réitère, je ne veux pas qu'on gracie des gens qui ont fait des parties à 250 d'un endroit alors qu'on n'était pas supposé d'être là. C'est pas de ça que je vous parle. Ce que je vous parle, c'est les couvre-feux et donc la moitié des tickets dont il est question. On est capable d'identifier, on est capable de donner des paramètres au juge. Et oui, bien sûr que j'ai confiance au jugement. Tu sais, je veux dire.
Parce que les juges, prennent ça en ligne de compte, des fois, les circonstances atténuantes, là.
Bien sûr. Par exemple, quelqu'un qui a des défis de santé mentale et ou quelqu'un qui a une déficience intellectuelle, qui a pas un rapport avec l'heure, qui a pas ça comme rapport, ou quelqu'un qui vient d'arriver, qui maîtrise pas la langue, je ne sais pas c'est quoi. On est capable d'intelligence au Québec, mais ce que je souhaite surtout là, c'est qu'on se permette d'en discuter, non pas à la façon de M. Duhaime qui dit on met tout le monde dans le même bain. Non. Nous, à Québec solidaire, on a toujours demandé à respecter les règles et on veut que les gens qui ont volontairement prépassé ces règles-là, bien sûr que la contravention, on veut qu'elle s'applique, mais j'ai de l'ouverture, j'ai un malaise face à la situation quand il est question de justement les gens les plus vulnérables.
Dernière question là-dessus, écoutez, c'est un sujet que je trouve fascinant, là. Je sais qu'à une époque en France, là, quand il y a un nouveau président qui arrivait, qui était élu, il y avait une amnistie sur l'étiquette, j'ai déjà lu ça quelque part. Là, pensez-vous qu'ici, est-ce que le procureur général ou le politique peut ordonner au judiciaire d'annuler des contraventions? Est-ce que il me semble qu'il y a comme un mur entre les deux?
Ben, écoutez, ça a l'air que par décret, avoir M. Legault aller depuis quelques mois, tout se peut. Ceci étant dit, moi, je pense qu'en matière de règles de santé publique, les règles qui ont été émises, c'est pas pour rien qu'on appelait la population et qu'on continue d'ailleurs à appeler la population à respecter les règles qui vont permettre de passer au travers de la pandémie. Il faut se rappeler, là, c'est pas un ticket pour un ticket, là. C'est un ticket qui, pour certains, contrevenait à des paramètres qu'on s'était donnés pour essayer de combattre la pandémie. Alors, moi, tu sais, l'hypothèse que vous émettez, peut-être que philosophiquement, dans l'absolu, c'est possible, mais pour moi, j'accepterais pas comme bien des citoyens du Québec d'ailleurs, qu'on dise, ben vous savez, il y a plein de monde qui n'ont pas respecté les règles volontairement, et ces gens-là, on ne les punirait pas, je trouverais ça plat.
OK, écoutez, je pense que ça va... écoutez, ça peut-être faire débat, là. Je sais juste pas c'est quoi le mécanisme qui pourrait, par lequel le gouvernement pourrait passer. C'est possible, je ne sais pas si ça se peut. Très bien, merci beaucoup, Mme Massé.
Merci, bonne soirée.
À la prochaine. Manon Massé, députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, porte-parole de Québec solidaire.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.